Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. À tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Elle a le regard d'acier et la détermination de son mari. Aujourd'hui, la femme d'Alexeï Navalny a mis en ligne une vidéo pour dire que Vladimir Poutine a tué le père de ses enfants. Une courte déclaration dans laquelle elle affirme aussi qu'elle prendra le relais du combat pour la liberté mené par son mari. La mère du principal opposant à Vladimir Poutine, décédée en prison vendredi, s'est rendue, elle, dans la colonie pénitentiaire du nord de la Russie avec l'espoir de récupérer le corps de son fils. Mais les portes restent fermées et le Kremlin se contente d'affirmer qu'une enquête est en cours. En Russie, 400 arrestations ont eu lieu ces derniers jours. Une répression implacable pour éviter toute manifestation de soutien à Navalny. Cet après-midi, l'ambassadeur de France en Russie est venu déposer une gerbe au mémorial des victimes de la répression politique à Moscou. Signe que la France, comme les Occidentaux, ont bien du mal à encaisser. Joseph Borrell estime, lui, que Poutine devra rendre des comptes. Navalny, sa veuve, se dresse contre Poutine. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Alain Bauer, vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Citons votre dernier livre, Tu ne tueras point, publié chez Fayard. Anne Niva est avec nous ce soir. Vous êtes reporter de guerre spécialiste de la Russie. Je cite votre livre, apparaître dans 15 jours chez Flammarion, La haine et le déni. Claude Guibal est avec nous. Vous êtes grand reporter à la rédaction internationale de Radio France. Je précise que vous avez rencontré Alexeï Navalny en 2012. Paul Gogo est avec nous, vous aussi, me dit Anne Niva. Vous nous raconterez dans un instant. Paul Gogo, vous êtes journaliste et correspondant à Moscou. Je cite votre livre, Opération spéciale, 10 ans de guerre entre Russie et Ukraine, vue et vécue depuis le Donbass, publié aux éditions du Rocher. Et puis nous sommes en direct ce soir avec Sylvain Tronchet. Vous êtes le correspondant à Moscou de Radio France. Citons votre reportage disponible sur le site de Radio France. Mort d'Alexeï Navalny, la Lamalie, l'enfer des prisonniers politiques russes depuis des décennies. Citons également votre interview d'Oleg Orlov, la veille de la mort de Navalny. Nous y reviendrons là aussi grâce à vous ce soir. Bonsoir à tous les cinq. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais rester avec vous, Sylvain Tronchet, pour savoir s'il y a toujours en ce moment des manifestations de soutien à Alexeï Navalny, malgré, je le disais à l'instant, la répression sévère du Kremlin.
Donc, plus que de manifestations de soutien, on pourrait plutôt parler de témoignages de soutien. Ça a continué, autant que je le sache, à défiler devant les quelques monuments où les moscovites, notamment, sont venus déposer des fleurs, puisque déposer des fleurs, finalement, c'est le dernier acte public autorisé dans la Russie de 2024. Ça a tendance à s'étioler. Et puis, bon, la répression est toujours là. Hein. Il y a eu plus de 400 arrestations, a priori, depuis le début de ces témoignages. Et déjà, les premières condamnations qui sont tombées, 15 jours de prison pour avoir brandi une photo. Voilà.
Est-ce qu'on en parle, j'allais dire, au café de Navalny? Est-ce qu'on peut aborder le sujet tranquillement ou est-ce que c'est un sujet tabou?
C'est très compliqué, mais je vais vous raconter une histoire qui m'a été racontée par une Russe que je connais, que j'ai vue le jour de l'annonce du décès d'Alexeï Navalny, qui m'a dit qu'elle était en réunion à son travail et qu'elle a vu l'information tomber sur son téléphone et qu'elle en a eu le souffle coupé. Et que toute la réunion s'est poursuivie pour elle dans une espèce de brouillard, plus ou moins en apnée. Elle a vu qu'un de ses collègues, éventuellement, avait dû lui aussi trouver l'information, mais en fait, personne n'en parlait autour d'elle. Il y avait cette espèce de chape de plomb. Il n'y a qu'un seul collègue à qui elle a pu se confier rapidement, et autour d'elle, il était absolument hors de question d'en parler. On en parle éventuellement, mais seulement avec des gens fiables, des gens sûrs.
Un sujet tabou, Alain Bauer, Alexeï Navalny, est-ce qu'il représente peut-être pour une partie des Russes un sujet tabou aussi, c'est où est passé le corps d'Alexeï Navalny? Est-ce qu'il est normal que le porte-parole du Kremlin dise une enquête est en cours, point barre, alors que je le disais, sa mère est sur place pour essayer de récupérer le corps?
Alors d'abord, un dictateur qui est un tsar et qui considère que la gestion de la douleur, la perversité de la gestion de la douleur est un élément de son propre pouvoir, utilise tous les moyens et les seuls qu'il choque, c'est nous. Parce que l'usage de la violence, qui est ici le dernier refuge de l'incompétence, est très différemment vu par ailleurs. Et l'affirmation du pouvoir impérial, au sens vraiment de ce qui est dans sa tête, est un élément qu'il prend. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fini de torturer le vivant, pourquoi ne pas torturer les morts et les proches ? Le deuxième élément, c'est les conditions de la mort d'Alexeï Navalny, car évidemment, le corpus delicti, le corps du délit, c'est le corps du défunt. Et dans ce cas précis, le corps parle beaucoup. En médecine légale, on fait beaucoup parler les morts. Et heureusement d'ailleurs, ça donne des éléments sur des brimades permanentes qui ont créé la fameuse mort subite. On a l'impression que c'est la mort subite du nourrisson version russe, qui est quand même l'explication la plus pathétique qu'on a pu entendre jusqu'à présent. Il y a le froid, les privations, les coups, le fait d'être affamé. Bref, on est toujours dans l'archipel du goulag. Rien n'a changé, ni les lieux, ni les méthodes. Et pour ceux qui cherchent à comprendre, il faut relire Solzhenitsyn et puis tout est dedans. Et puis le troisième élément, c'est évidemment faire disparaître les preuves s'il y a eu un nouvel empoisonnement, si c'est l'effet secondaire, par exemple, d'une hémorragie interne. Et il restera là le dernier élément qui a déjà été utilisé par les services du KGB à l'époque, c'est de dire « Ah, bêtement, on l'a incinéré parce qu'on ne pouvait pas le garder ». Ce qui terminerait cette série de perversités absolues dans l'absence de remise du corps, de capacité à faire le deuil avec le corps. Et on a ça assez régulièrement. D'ailleurs, quand on ne retrouve pas le corps de quelqu'un dont on est sûr qu'il a été tué, assassiné, enlevé, ça fait durer la torture à d'autres que ceux qui sont directement
et à d'autres tués. Et on va en parler beaucoup ce soir, notamment de sa femme qui a repris le combat à Anniva.
Mais je voudrais ajouter quelque chose sur le corps, parce que là, il y a plusieurs raisons pour lesquelles, évidemment, le Kremlin a envie de faire durer. Bon, évidemment, pour dissimuler, mais également parce que il y a des élections qui arrivent. Et il y aura un problème si le corps est rendu avant la tenue de ces élections, qui ont lieu le 17 mars, un problème de l'enterrement. Imaginons que le corps soit rendu à la famille avant les élections, il va y avoir un enterrement. Un enterrement, ça peut attirer des foules. Mmh. En 2015, quand l'opposant Boris Nemtsov a été assassiné presque en face du Kremlin, son enterrement avait attiré des foules et ça avait posé un problème. Donc, franchement, j'ai des doutes sur
le
fait que le corps soit rendu avant les élections. Le comité d'enquête fédérale a ouvert d'ailleurs déjà une procédure pour vérification. Ce qui leur donne le droit de garder le corps pendant 30 jours. Donc on y est, hein, on y est, puisqu'il reste moins de 30 jours avant le 17 mars.
Paul Gogo, je le disais, c'est la maman d'Alexeï Navalny qui s'est rendue sur place. Hein, c'est à 2000 km de Moscou, on le sait maintenant, hein, avec les avocats, ceux qui restent en vie, des avocats, il en reste un, des avocats d'Alexeï Navalny.
Exactement, parce qu'Alexeï Navalny, il a perdu plusieurs de ses avocats ces derniers mois. On n'en a peut-être pas beaucoup parlé, mais en fait, ses avocats, c'est ce qui lui permet de communiquer. Parce que nous, en Europe, on voit les petits messages d'Alexeï Navalny sur Twitter, plein d'humour et dans lequel il tenait à montrer qu'il était fort, qu'il tenait face à toutes ces horreurs et à sa vie en prison. Et depuis quelques mois, ses avocats, ils étaient moins nombreux. Et depuis quelques semaines, dans ce décor qui est incroyable, pour le coup, je connais très bien cette ville-là, j'y suis allé plein de fois, c'est hallucinant. Je ne sais pas si vous avez vu ces images qui ont été diffusées de ces convois, visiblement ce convoi lié à l'administration pénitentiaire, qui a traversé la nuit de sa mort ce fleuve, le fleuve Ob, qui sépare l'aéroport de la région dans laquelle est présente cette colonie. Et je connais cet endroit-là et c'est juste un paysage digne d'un film assez incroyable. Vous imaginez ce qu'on voit qui traverse la glace, filmé par des caméras de surveillance et puis qui se rend à 40 km dans cette colonie pénitentiaire avec visiblement une atmosphère qui était étrange dans la prison cette nuit-là et ce corps derrière qui disparaît. Donc ce sont quand même des conditions, même quand vous vivez à Moscou et que vous allez là-bas, vous êtes déjà dans un autre monde. Et d'ailleurs, les gens de Moscou ne connaissent pas cette région.
Et nous allons revenir en détail sur les conditions de détention, puisque Sylvain Tronchet, vous êtes allé en reportage dans cette ville et vous allez nous raconter dans un instant la façon dont les détenus sont traités au quotidien et comment est-ce que c'est vécu dans cet endroit de la Russie. Claude Guibal, un mot sur, on disait, ça rajoute de la souffrance à la souffrance pour la famille. On a vu tout à l'heure, et on va en reparler longuement, la femme de Navalny qui n'a toujours pas le corps de son mari, mais qui se dresse et qui prend le relais.
qui prend le relais et qui est une façon aussi de continuer le combat d'Alexei Navalny en disant je n'ai pas peur, je n'ai pas peur parce que finalement...
Alors qu'elle a peur sans doute, non, comme tous ceux qui se dressent contre Poutine.
Je ne sais pas si Alexei Navalny avait peur lui-même ou pas, mais en tout cas ce qu'il faisait...
Ils ont toujours exprimé qu'il n'avait pas peur.
Voilà,
c'est leur ligne.
Ce qu'il faisait de Navalny la raison d'être prisonnier personnel de Vladimir Poutine, c'était précisément ce bras d'honneur jusqu'au bout, de dire « je n'ai pas peur ». C'était cette morgue qu'il incarnait, sachant très bien, par exemple, quand il est retourné en Russie après sa tentative d'empoisonnement, alors qu'il avait tout à fait toute l'attitude d'avoir un asile diplomatique à peu près n'importe où, dans n'importe quel pays occidental, il rentre en Russie pour envoyer ce message à Poutine, je n'ai pas peur et j'irai jusqu'au bout et on va bien voir qui de toi ou moi va gagner. Et aussi parce qu'il savait pertinemment que le poids de son combat ne serait pas le même s'il était mené de l'étranger plutôt que de l'intérieur. Parce qu'une des légitimités d'Alexei Navalny, c'était quand même quelque part, et ce n'est pas faire offense à sa mémoire, mais de se poser face à Poutine sur des bases aussi... il allait marcher sur le terrain de Poutine en lui disputant le monopole de la grande Russie historique. Alexei Navalny ne voulait pas passer pour l'opposant de l'étranger, l'agent de l'étranger, comme le Kremlin voulait l'identifier. Donc, quelque part, dans cette volonté de garder le corps et le mystère sur la mort de Navalny, il y a aussi cette volonté de poursuivre la terreur et
auprès des soutiens de Navalny, auprès de la famille.
De n'importe qui en Russie se mettrait en travers de Vladimir Poutine et auprès de sa famille pour effectivement, comme on le disait, faire peser le poids de l'absence. Il n'y a rien de pire, en fait, que de ne pas savoir.
Ouais, de ne pas savoir ce qui lui est arrivé.
De ne pas savoir ce qui est arrivé, évidemment, et de ne pas pouvoir avoir un corps, quelque chose sur quoi vous recueillir.
Durant mes années en Russie, j'ai assisté à plusieurs arrestations d'Alexei Navalny, puisque ça se passait toujours de la même façon. Il y avait un appel à manifester, et puis il arrivait, il s'approchait de la manifestation, on le voyait se faire arrêter. Et en fait, Alexei Navalny, c'est quelqu'un qui anticipait toujours tout, parce qu'il savait qu'il allait se faire arrêter. Et donc, il prévenait ses proches, il prévoyait des coups, des fois des coups de communication qui avaient lieu une fois qu'il était dans le camion de la police. Et donc, clairement, il a envisagé cette situation où il pouvait décéder en prison avec sa femme, ses enfants, ses enfants qui ont un caractère aussi fort que le sien et de celui de sa femme.
Enfin, il a deux enfants, un garçon et une fille.
Exactement, c'est une famille qui a un sacré caractère. Et évidemment qu'ils vont prendre le relais. Et évidemment, quand en se débarrassant d'Alexei Navalny de cette façon-là, Vladimir Poutine, il vient de créer trois personnages qui vont s'opposer à lui plus que jamais. Et les enfants, ils l'enterreront. Vladimir Poutine, ils sont jeunes, ces enfants encore.
Et on va en parler dans un instant. J'ai juste une question avant d'aller au premier reportage. Alain Bauer, pourquoi maintenant ?
C'est la seule et unique grande question de cette affaire. Le fait que Alexei Navalny, en rentrant en Russie, a parfaitement intégré qu'il pouvait mourir, il a d'ailleurs dit à plusieurs reprises, il a d'ailleurs indiqué ce que serait la suite. Justement, sa femme était déjà très engagée, sa fille aussi. Le garçon est plus jeune, je crois. Donc, il n'est pas encore totalement dans le mouvement, mais de facto,
il le sera.
Il vient de créer une dynastie autour d'un martyr. Et comme c'est juste avant les élections... Tout ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, c'est vrai que la communication qui réussissait encore à passer de Navalny, y compris en utilisant des mises en scène pour Noël, etc., avait un côté extraordinairement agaçant, comme cette espèce de moustique qui rendait totalement fou Vladimir Poutine et surtout son entourage. Et donc, l'idée générale pour l'instant, mais il faudra la démontrer quand on en saura plus, c'est qu'en fait, à un moment, comme toujours, un sous-fifre, un subalterne a légèrement exagéré sur les instructions et a mis justement en péril ce qui explique la difficulté du Kremlin à la fois à ne pas rendre le corps, à inventer tout et n'importe quoi, et au-delà même de la gestion de ce mal pervers qui est le plaisir réel d'un vrai dictateur, de se dire qu'en fait tout ça tombait très mal. Donc l'hypothèse c'est qu'en fait, trop fort, trop vite et pas au bon moment, même si inéluctablement Vladimir Poutine ne pouvait pas se permettre de le garder vivant trop longtemps.
Et on va continuer cette discussion avec vous. Je voudrais juste qu'on voit le premier reportage. On l'a dit, la mère d'Alexei Navalny et ses avocats sont arrivés à la morgue ce matin, mais sur place dans cette colonie pénitentiaire de haute sécurité. Impossible, une nouvelle fois, d'avoir accès au corps. Le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, affirme placide qu'une enquête est en cours et joue la montre. Mais aujourd'hui, la femme de Navalny affirme que c'est Poutine qui a tué le père de ses enfants et qu'elle est prête à prendre le relais du combat pour la liberté menée par son mari. Aubry Perrault, Nicolas Baudry-Dasson.
Bonjour, je m'appelle Yulia Navalny et je me tiens ici devant vous pour la première fois. Il y a 3 jours, Vladimir Poutine a tué mon mari, Alexei Navalny.
Le visage marqué et la voix serrée, 3 jours après l'annonce de la mort d'Alexei Navalny, sa veuve diffuse aujourd'hui ce message, comme une reprise de flambeau, de l'ancien opposant numéro 1 à Vladimir Poutine, à celle qui partageait sa vie.
Poutine n'a pas seulement tué un homme, Alexei Navalny. Avec lui, il a voulu tuer nos espoirs, notre liberté, notre avenir. Détruire et éliminer la meilleure preuve que la Russie peut être différente. Que nous sommes forts.
En visite à Bruxelles aujourd'hui, accueillie par le président du Conseil européen Charles Michel, Yulia Navalny poursuit un marathon diplomatique entamé dès vendredi dernier. Quelques instants après avoir été informée de la mort de son mari, elle maintient sa présence à la conférence de Munich, ovationnée à son arrivée.
J'ai hésité pendant longtemps entre venir ici ou aller rejoindre directement mes enfants. Puis j'ai réfléchi à ce qu'Alexei aurait fait à ma place. Et je suis sûre qu'il serait là, face à vous.
Son visage incarne-t-il la suite ? Yulia, mais aussi Dasha, leur fille de 23 ans, prend régulièrement la parole pour défendre son père. Le combat d'Alexei Navalny ne doit pas s'arrêter avec sa mort. Il en avait fait sa dernière volonté.
Écoutez-moi, j'ai un message pour vous. Vous ne pouvez pas abandonner. S'ils décident de me tuer, c'est que nous sommes incroyablement forts.
La suite du combat commence avec un mystère à résoudre. Alexei Navalny est-il mort après un malaise, comme l'affirment les services pénitentiaires russes ? Impossible pour sa famille de récupérer pour le moment son corps, malgré les nombreuses tentatives de sa mère auprès de la morgue locale. Sur cette vidéo d'un média russe, voici le convoi qui transporterait la dépouille depuis la prison jusque dans un hôpital toujours en Sibérie. La porte-parole d'Alexei Navalny accuse encore ce matin les autorités russes.
Ils mentent, gagnent du temps et ne le cachent même pas.
Un ambulancier qui a participé à l'évacuation du corps d'Alexei Navalny semble accréditer la thèse d'une mort suspecte. Il témoigne anonymement.
Ils ont essayé de le réanimer. Il est probablement mort d'un arrêt cardiaque. Mais personne ne dit pourquoi il a fait un arrêt cardiaque. Ils l'ont conduit à la morgue, l'ont fait entrer, puis ont posté 2 policiers devant la porte. Ils auraient tout aussi bien pu mettre une pancarte disant « Il se passe quelque chose de mystérieux ici ».
Depuis vendredi en Russie, des dizaines de personnes ont défié le pouvoir en déposant des fleurs, en hommage.
Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est mon devoir. Il s'est battu pour nous tous. Et maintenant, nous devons au moins honorer sa mémoire.
Le Kremlin avait interdit les rassemblements. La police russe aurait arrêté 400 personnes selon une ONG. Mais pas un mot de la part du président russe qui, dans sa dernière interview télévisée, se concentre sur l'offensive en Ukraine.
C'est notre destinée qui se joue. C'est une question de vie ou de mort.
Ce matin, le porte-parole du Kremlin s'en est pris aux dirigeants occidentaux qui l'accusent de réaction hystérique après la mort d'Alexei Navalny.
Et on se disait en regardant ce reportage, Claude Guibal, qu'il en faut du courage pour aller déposer ses fleurs devant ce mémorial.
Absolument. Alors ces fleurs, et c'est timide. C'est timide parce qu'elles sont très courageuses, ces démonstrations d'hommage, mais elles sont rares. Elles sont pas si nombreuses que ça. Il faut un courage immense. On voit le nombre d'arrestations qu'il y a eu tout simplement pour avoir levé une pancarte, posé un bouquet de fleurs, et puis ces bouquets de fleurs, ils sont immédiatement enlevés, comme tous les hommages qu'il y a pu y avoir à Navalny à travers la Russie. Oui, il faut avoir du courage aujourd'hui pour se dire qu'on va se mettre en travers du chemin de Vladimir Poutine.
Sylvain Tronchet, que dit la propagande russe ? Est-ce que à la télé d'État, on parle de la disparition d'Alexei Navalny ? Est-ce que son nom est prononcé au Kremlin ?
Non, il a quasiment disparu de la télévision. La télévision a annoncé la nouvelle de sa mort, la nouvelle de la mort du détenu Navalny, en le présentant non pas comme un opposant, mais contre comme un repris de justice. Et tout cela noyé au milieu des journaux, sans jamais montrer son visage, surtout. Il y a eu quelques commentaires acerbes dans les talk-shows russes qui commentent la guerre à longueur de journée pour rappeler qu'il était probablement un agent de la CIA ou du MI6. Ça y est, il a disparu de l'espace public, puisque c'était déjà l'objectif, de toute façon, en l'envoyant à Kharkiv dans le Grand Nord, c'était de le faire disparaître de l'espace public. Là, l'opération d'effacement d'Alexeï Navalny est en marche.
Et le journal Le Monde raconte aujourd'hui comment la propagande russe commence à cibler la femme d'Alexeï Navalny sur son absence de peine, le fait qu'elle n'a pas vu son maquillage couler, etc. Est-ce que vous entendez aussi ce genre de choses ?
Oui, enfin, je le lis effectivement sur certains canaux Telegram. Il faut bien avoir conscience que Yulia Navalnaya, elle avait une position particulière parce que les femmes d'hommes politiques sont totalement absentes de l'espace politique en Russie. On a plutôt tendance à dissimuler les femmes parce que parfois il y en a plusieurs également derrière les politiques russes. Et Alexeï Navalny rompait avec cette tradition, avec sa femme qui n'avait pas nécessairement un rôle politique, mais qui était là comme une évidence, toujours présente à côté de lui, dont tout le monde savait exactement qui elle était et où elle était. Et ça, c'était très inhabituel dans le spectre politique russe.
Justement, cette question, Yulia Navalnaya peut-elle agir véritablement contre Poutine depuis l'étranger ? Anne Niva.
D'abord, je voudrais revenir sur le charisme de ce couple, parce qu'effectivement, c'est très inhabituel, comme Sylvain vient de le dire. Et les Russes ne sont pas habitués à cela. La femme de Gorbatchev, Raïssa Gorbatcheva, était plutôt assez détestée. Et Yulia Navalny, effectivement, elle accompagnait son mari partout. Elle était à ses côtés quand il a pris cette décision de revenir d'Allemagne après avoir été empoisonné. Donc, lui, il a été arrêté à ce moment-là, en janvier 1921, et elle est sortie. Elle a été acclamée quand elle est sortie à l'aéroport. Et là, elle a pris la parole et elle a dit « Voilà le message de mon mari, c'est « je n'ai pas peur », c'est-à-dire « lui n'a pas peur, mon mari n'a pas peur, moi je n'ai pas peur ». Et il vous demande de ne pas avoir peur. Et Alexeï Navalny, qui deux jours avant sa mort postait sur son compte Instagram une déclaration d'amour encore à sa femme pour la Saint-Valentin, avait dit d'elle, et ça ne m'étonne pas de lui, « ma femme est plus radicale que moi ». Vous verrez, elle ira loin. Et aujourd'hui, elle a commencé son discours en disant « C'est la première fois que j'interviens sur la chaîne YouTube de mon mari. Ça n'était pas prévu que je le fasse, c'est sa place. Mais aujourd'hui, je la prends pour pouvoir dire qu'il ne faut pas abandonner et que je suis là et que je vais poursuivre. » Paul, c'est une femme forte.
C'est une femme forte. Pour cette question qui nous est posée, peut-elle agir véritablement contre Poutine depuis l'étranger ?
Ah, ça...
Ça, lui, il a considéré qu'il fallait revenir
en Russie
pour être audible et il l'a payé avec sa vie.
Et elle est à l'étranger. Pour le moment, elle ne va pas rentrer.
Elle est protégée. Il y a un système autour de la femme d'Alexeï Navalny aujourd'hui. J'allais dire un système qui la protège. On a vu sa chaîne YouTube. Il y a du monde autour d'eux. C'est une femme seule, c'est une femme entourée.
Non, leurs partisans sont un peu dispersés partout en Europe, mais ils existent, le réseau existe encore, des enquêtes sortent encore, parce qu'à l'origine, tout ce monde-là crée des enquêtes justement pour dénoncer la corruption. C'est peu probable qu'elle rentre en Russie, parce que maintenant, on a compris qu'on était dans une autre ère, où partir du principe, parce que j'ai pas la réponse à cette question, est-ce qu'Alexeï Navalny pensait sortir vivante de cette prison ? Non, mais en tout cas, je pense que lui se voyait s'inscrire dans un destin politique. Je prouve aux Russes que je ne les ai pas abandonnés, que le jour où on me libérera de prison, eh bien, j'aurai payé de ma personne pour pouvoir être là et les défendre et apporter quelque chose au pays. On n'est plus maintenant dans cette situation-là. Et il va falloir militer depuis l'étranger. Mais comment parler aux Russes quand on est à l'étranger ? C'est une vraie question.
Parce qu'ils n'entendent pas, parce que ça n'arrive pas jusqu'à eux.
Parce qu'il y a déjà une question de crédibilité en Russie. Tout opposant, déjà, est considéré par défaut comme étant financé par l'étranger. Ouais. Donc si en plus vous êtes réellement à l'étranger, c'est compliqué à défendre comme position. Donc mais c'est un enjeu même pour les diplomaties occidentales. Comment réussir à parler aux Russes en tournant le pouvoir. Et on n'a pas vraiment de réponse. Parce que
en tout cas, elle est audible en Occident, puisqu'on a vu que sa chaîne YouTube avec 6 millions d'abonnés, que sa parole a été relayée à la seconde, qu'on voit que c'est une femme qui a énormément de charisme et qui va prendre le flambeau, on n'a aucun doute sur le fait qu'elle sera aussi déterminée que son mari, Claude Kébal.
Je crois.
C'était quelque... En fait, ce combat-là, il le menait à deux, en
bien
réalité.
Sûr, hein. Ce combat-là, il le menait à deux. Je pense que leurs enfants... qui
oui,
sont
vrai,
encore
en
jeunes.
Pas, ouais.
Enfin, Navalny, il n'est pas sorti il y a 3 ans, hein, donc ce sont des enfants qui ont grandi dans cette lutte, dans ce combat, dans ces convictions, avec un père envoyé en prison, envoyé à l'isolement depuis des années, avec le harcèlement qui s'acharnait sur lui, sur son entourage, en parlait de ses avocats, les gens de sa fondation, ouais. etc. Mais oui, elle a un courage.
Pour garder la photo de famille. Là, hein.
Comme ils se ressemblent, la mère et la fille,
ouais,
comme
ouais,
elles sont
sûr.
Belles.
Ouais, ouais.
Ils ont un courage, elle a un courage phénoménal, la façon dont elle s'est adressée à la conférence de Munich quelques minutes, oui. quelques heures à peine après l'annonce de la mort de son oui. mari. C'est une femme d'une force invraisemblable.
Et ce qu'elle dit sur sa chaîne YouTube dans cette interview, c'est qu'elle dit... c'est pas grave de peu faire. Ce qui est grave, ça serait de ne rien faire. Et donc là, sa voix, elle va porter parce que elle est à Bruxelles aujourd'hui.
Elle est
en allant parler devant les ministres des Affaires étrangères européens aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle oblige l'Europe à parler d'une voix unique
ouais.
d'exprimer son soutien à Navalny et à l'opposition,
que l'Europe
à l'opposition
a fait, hein.
russe. Et l'Europe le fait. En faisant ça, elle oblige l'Europe dans sa diversité, la Hongrie y compris, à s'exprimer d'une voix unique face à ce qui vient de se passer. Donc aujourd'hui, son rôle est probablement de ce rôle d'ambassadrice. Et on verra après quel avenir politique et quel avenir d'opposante elle se donne. Mais là, pour l'instant, son mari est mort depuis 3 jours à peine. Et ouais. elle fait preuve.
Et il n'y a pas eu de flottement.
Ah non.
Effectivement,
pas.
Vous parliez de l'Europe. Josep Borrell, qui est chef de la diplomatie européenne, qui dit nous devons envoyer un message de soutien à l'opposition russe. Alain Bauer, sur le sort de la femme de Navalny, la question moi, que je me suis posée quand j'ai vu sa déclaration, je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui, même si elle n'est pas en Russie, elle est en danger, cette femme?
Ah, d'abord, elle est en danger parce que la plupart des opposants russes, même quand ils sont à l'étranger, surtout paradoxalement les anciens de l'entourage de Poutine, les anciens du KGB et du FSB, qui sont considérés comme des traîtres. Alors, il y a plusieurs catégories dans la logique éliminatoire d'eux, mais tout citoyen russe opposant à l'étranger est considéré, et c'est la ligne officielle, comme un traître, comme un agent de l'étranger, ou comme un traître, et d'ailleurs ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait 80 ans que l'ex-URSS a mis en place un outil qui s'appelait Schmerch, qui considérait qu'on pouvait éliminer tous les agents de l'étranger qui étaient considérés comme des espions, même quand ils n'étaient qu'en léger désaccord avec la ligne de Staline. Donc il n'y a pas de nouveauté. Après, c'est l'enjeu, c'est... Comment on arrive à atteindre quelqu'un sur un territoire occidental où elle est... Oui, enfin, en Angleterre...
Il y en a beaucoup qui sont tombés par la fenêtre.
Ils ne sont pas bons.
Je pense quand même...
Ils ne sont pas bons, mais...
à ceux qui restent en Russie.
Pour eux, non, j'entends bien, mais
ouais, bien
parlons
sûr.
De son cas à elle, et je réponds à la question ouais. qui est posée. Et donc, oui, c'est dangereux, parce que quand on décide d'éliminer quelqu'un et qu'on y met les moyens, on l'a vu dans des tentatives d'élimination ou des éliminations. Ça a commencé d'ailleurs, il y a pas en France, on a oublié le parapluie bulgare, mais c'était chez nous. Hein. Voilà, ça n'a pas bien marché d'ailleurs. Mais il y a des risques qui sont considérables, et donc le niveau de protection de la famille Navalny aujourd'hui est un enjeu absolument majeur, quel que soit le pays où elle se rend. Et d'ailleurs,
dans
il y avait
un
une
celui-ci,
protection très considérable aujourd'hui
Alain Bauer,
à Bruxelles.
Alain Bauer, justement, dans un cas comme celui-ci, est-ce que d'autres pays, comme la France, d'autres pays européens, peuvent sécuriser, protéger la femme de Navalny? Est-ce que ça peut se passer comme ça?
Ah bah c'est le cas. Là où elle est, là où elle sera, avec ses enfants, elle sera... protégée par le pays hôte qui va justement, et c'est un des éléments intéressants de la décision européenne et du message de la minute de silence, enfin de l'élément très symbolique, mais c'est que derrière l'élément symbolique, il y a aussi des enjeux. En contrepartie, ceci va être utilisé contre elle en Russie pour démontrer que bien évidemment, elle est désormais un agent de l'étranger luttant contre le pouvoir russe et donc le peuple russe et la nation russe, et ça va redonner de l'élan à tout n'importe quoi, y compris son rimmel n'a pas coulé.
Oui. Est-ce que on se posait la question tout à l'heure de se dire, est-ce qu'il n'était pas plus utile vivant, Alexei Navalny? Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les critiques formulées par les Occidentaux sur ce qui a été qualifié d'ailleurs de déclaration odieuse par Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, c'est vrai qu'il y a eu une espèce de bronca internationale sur la façon dont les choses se sont passées. Est-ce que ça peut nuire à la Russie, Claude Guibal?
Les déclarations internationales, enfin, ça a assez peu touché Poutine, hein, je pense, jusqu'à présent. Ça n'a jamais retenu son bras de quelque façon que ce soit.
Joe Biden dit cet après-midi qu'il faudrait davantage de sanctions, justement, après ce qui s'est passé avec Navalny.
Mais la Russie, Vladimir Poutine, joue de ça et avec un énorme succès. C'est qu'il met le doigt sans arrêt sur le fait qu'on se paye de mots. Enfin, concrètement, on a des déclarations, on va pleurer la mort de Navalny pendant 3 semaines et on va passer à autre chose. Enfin, ça va pas.
Moins de 3 semaines.
Ça va pas. Voilà. Donc c'est pas les mots, c'est pas les condamnations qui vont changer quoi que ce soit. La Russie de Vladimir Poutine pointe toujours du doigt les faiblesses de notre démocratie, de nos prises de parole et de nos difficultés à mettre en action, de nos divisions. Ils savent très bien que le temps long joue pour eux quand on n'a pas. On est dans un régime. Une dictature pratique l'impunité comme pierre angulaire de son pouvoir. Donc, ils en ont absolument rien à faire. Mais vraiment, vraiment rien à faire. En revanche, est-ce que Navalny vivant aurait pas été plus utile pour Vladimir Poutine? C'était quand même cet objet de torture permanent qui pouvait durer sur le temps long, avec quelque part, j'imagine aussi, là je me mets dans la tête de Vladimir Poutine, mais la jouissance du psychopathe de pouvoir jouer comme ça au chat et à la souris, et ça pouvait lui servir longtemps. Navalny mort.
Il devient un héros.
Un martyr. C'est plus fort encore. C'est ça. Donc on peut se poser la question de qu'est-ce qui est le mieux finalement pour le régime russe. Et puis de toute façon, assassinat ou pas, c'est l'État russe qui a tué Alexei Navalny à petit feu, en l'envoyant dans les différentes colonies pénitentiaires où il a été. Il est très clair qu'il est très difficile pour n'importe quel humain, même en très bonne forme comme il était,
de survivre à tout cela. On va voir exactement ce qui se passe dans ces colonies pénitentiaires. Son nom est IK3, une prison de haute sécurité à 2000 km de Moscou, un ancien goulag où sont détenus les prisonniers considérés comme les plus dangereux par le régime. Navalny est arrivé en décembre dernier dans l'une de ces cellules glaciales où tout est fait pour briser les corps et les âmes des détenus. Juliette Perrault, Marie Laurent et David Lemarchand.
Il faut franchir le cercle polaire arctique pour accéder à la colonie pénitentiaire IK3. Une prison glacée dans le village sibérien de Karp. Les températures peuvent y descendre jusqu'à moins 32 degrés. Cet ancien goulag est réservé aux détenus les plus dangereux et à ceux condamnés à perpétuité. Alexei Navalny y avait été transféré en décembre dernier. Un quotidien coupé du reste du monde et des conditions de détention extrêmement dures, notamment en cellule d'isolement. L'opposant numéro 1 au Kremlin en faisait état sur X via ses avocats.
En régime normal, la promenade a lieu l'après-midi. Même en cas de nuit polaire, il fait toujours quelques degrés de plus l'après-midi. En cellule d'isolement, les promenades commencent à 6h30 du matin. Sur la photo ci-dessous, vous pouvez voir ma cour de promenade. Il y a 11 pas jusqu'au mur et 3 jusqu'à l'autre mur. Pas grand-chose pour marcher.
Il y a quelques semaines, dans l'une de ses dernières apparitions, Alexei Navalny s'adressait à la Cour suprême pour dénoncer ses conditions d'incarcération. Aucun soin de santé, 15 minutes pour avaler un repas et un seul livre autorisé en cellule d'isolement, l'absurdité d'un système brutal.
Le prêtre m'a dit que je ne pouvais pas lire le Coran sans lire la Bible, car ça n'avait pas de sens. Mais je lui ai dit « je ne peux pas » parce que le nouveau règlement intérieur dit qu'on ne peut avoir qu'un livre en cellule d'isolement, même si ce sont des livres religieux. Il a regardé la taille de ma cellule, la grande table que j'avais, mon étagère, et il a dit « il y a plein d'espace ici pour 2, 3, 10 livres ». Mais non, la décision avait été prise, pas plus d'un livre par cellule, y compris les livres religieux.
Tout faire pour briser les prisonniers. La terreur, l'humiliation, la violence.
Il y a quelques années, l'une de nos équipes rencontrait cette femme, dont le mari, emprisonné pour fraude financière, avait subi plusieurs attaques cérébrales en détention sans recevoir de soins. Elle avait gardé les enregistrements clandestins de ses passages au tribunal.
Là, c'est moi. Ils le battent maintenant.
Son mari est mort quelques mois après sa sortie de prison. Aujourd'hui, 266 000 détenus seraient enfermés dans les colonies pénitentiaires de Russie. Parmi eux, une autre figure de l'opposition au Kremlin, Vladimir Karamurza. Condamné à 25 ans de prison pour haute trahison après avoir critiqué l'invasion russe en Ukraine, il est aujourd'hui incarcéré en Sibérie.
Mon mari est en isolation complète depuis le mois de septembre de l'année dernière. Il est dans une cellule à une personne, une cellule de punition, où il n'a vraiment pas de contact humain, sauf avec son avocat, pour, je ne sais pas, 2 ou 3 heures par semaine.
Oui.
Et dans une cellule qui mesure, je ne sais pas, 3 mètres par 5 mètres,
oui.
Son état de santé se détériore aussi.
L'isolement peut être l'arme la plus puissante pour affaiblir les opposants. Dans les colonies pénitentiaires de Russie, l'asservissement est autant psychologique que physique.
Avec vous, Sylvain Tronchet, après ce reportage, cette question qui nous est posée par Walter, qui habite en Suisse. Poutine dispose d'un goulag. Rien n'a donc changé en Russie depuis l'époque des tsars et de Staline.
Déjà, techniquement, il y a eu relativement peu de réformes du système carcéral russe, hein, effectivement, depuis l'époque du goulag. Ensuite, on est sur une terre de goulag, très concrètement, en Yamali. Hein, le camp IK3 a été construit sur les bases du camp de travail numéro 501, qui était de sinistre mémoire en URSS, parce qu'il avait fourni énormément de prisonniers qui avaient servi à construire une voie ferrée, pas très loin de là, entre Salekhard et Igarka, qu'on a appelée la voie de la mort, tellement il y a eu de prisonniers qui ont laissé la vie sur la construction de cette voie ferrée. Et dans cette région, pour vous dire, on a parlé d'isolement, d'oubli, voilà, il ne reste quasiment aucune trace de cette mémoire, de ce sang versé sur cette terre. Pour en trouver une trace, il faut aller à Salekhard, la capitale, à une cinquantaine de kilomètres de là, dans un champ au bord d'une route totalement improbable. Là, on a le seul monument qui a été érigé à la mémoire de ces victimes du goulag. Il y a donc une forme de tradition, quoi, en fait, clairement, dans cette région-là. Et juste, je voudrais ajouter une chose. On a vu Yevgenia Karamurza, la femme de Vladimir Karamurza qui intervenait. Vladimir Karamurza, lui, il est à Omsk. C'est dans le sud de la Sibérie. Et les prisons à Omsk sont réputées encore plus dures que celles de la Yamali. C'est dire, et il y a beaucoup de gens en Russie qui sont très inquiets aujourd'hui pour le sort de Vladimir Karamurza.
Qu'est-ce que l'on sait des conditions? Je rappelle que vous étiez en reportage il y a une quinzaine de jours, hein, en Yamali. Qu'est-ce que l'on sait des conditions de détention sur place?
Alors, elles sont évidemment très dures parce que bon, il y a le contexte, évidemment, hein, les températures. L'été ne vaut pas beaucoup mieux que l'hiver. Il y a des hordes de moustiques qui vous assaillent. Il y a des conditions de détention, des règlements. Alexeï Navalny, on l'a vu, l'évoquait complètement ubuesque. Mais en plus, Alexeï Navalny avait droit à un traitement spécial. On avait créé en fait une sorte de prison dans la prison. Pour lui, avant même qu'il soit condamné à la dernière peine de prison qui a fait qu'on a pu le transférer là-bas, on sait que le directeur de l'administration pénitentiaire russe s'est rendu personnellement à Kharkiv pour préparer en quelque sorte les conditions de son incarcération. Et ça a des conséquences très concrètes. Par exemple, Alexeï Navalny n'avait pas le droit au colis. Or, dans cette zone-là, on le sait, la nourriture de l'administration pénitentiaire est notoirement insuffisante pour supporter les conditions climatiques de la zone. Et les prisonniers s'entraident entre eux en formant ce qu'on appelle des familles, en mettant en commun les colis, ce qu'ils peuvent récupérer, un peu de nourriture, et ça sauve des vies, en fait, concrètement. Et Alexei Navalny, lui, n'avait pas le droit à cela.
Paul Gogo, il paraît que l'hiver, il jette des seaux d'eau froide sur les détenus. Pour mesure, il fait moins 32 dehors, hein, et puis dedans, les cellules ne doivent pas faire très chaud non plus.
C'est ça, il y a des techniques de punition qui sont affreuses, totalement affreuses. L'été, on vous empêche de bouger vos mains pour vous débarrasser des moustiques. L'hiver, on peut vous jeter des seaux d'eau froide et vous laisser attendre comme ça dans la cour extérieure pendant de longues minutes, voire plusieurs heures. Enfin, ils ont leur loi et effectivement, comme le disait Sylvain, chaque colonie a sa réputation en Russie. Et donc on visualise à peu près quelles colonies dans lesquelles il ne faut jamais se retrouver. Lesquelles sont...
Celle-ci en fait partie.
Celle-ci en fait partie et à la limite, dans un premier temps, déjà à cause de la météo et de sa localisation. Mais après, évidemment, les conditions à l'intérieur sont terribles aussi. Mais comme le disait Sylvain, il y en a d'autres plus dans le sud qui sont aussi connus, réputés pour le coup, pour leur torture systématique, comme un rite au moment où vous arrivez dans la colonie et qui se poursuit ensuite. C'est aussi une façon d'extorquer de l'argent à la famille parfois. Si vous ne nous envoyez pas de l'argent, on va torturer le détenu. Enfin, c'est...
Quand ils arrivent, ils sont mis à nu et battus.
Voilà, et d'ailleurs, je peux aussi vous raconter que moi, j'ai fait des reportages dans cette région-là il y a quelques années, et j'ai décidé d'y aller en train, et j'ai mis 2 jours pour atteindre la Bite Nanguy qui est juste à côté, oui, de Tarbes. Et c'est en descendant du train que je me suis rendu compte que le dernier wagon de mon train, c'était ce qu'on appelle les wagons Stolypine, qui sont les wagons, voilà, dans lesquels on transporte les détenus et qui ont été conçus pour transporter du bétail, en fait, à l'origine. Et donc, les détenus sont comme ça, dans ces wagons avec des grilles pas chauffées pendant 48 heures. Vous êtes dans votre wagon chauffé, vous sortez du train et vous vous rendez compte que les gens voyageaient en des conditions totalement différentes que les vôtres.
Il communiquait sur les conditions de détention, Alexei Navalny. Il racontait ce qu'il vivait ou pas. On le sait, ce qu'il vivait, 300 jours en cellule disciplinaire.
Hein. Oui, c'est
long.
C'est gigantesque, personne ne peut résister à cela. Oui. Mais il le racontait toujours avec son sourire légendaire et son sens de l'humour. Donc cette force mentale, morale, c'est ça qu'il tenait à montrer encore à son public. Mais pour raconter un petit peu ses conditions, justement, la volonté d'isolement par ses communications, là où il avait été précédemment, Alexei Navalny, donc avant qu'il arrive au-delà du cercle polaire, il pouvait jouir du système postal digital qui est propre au système pénitentiaire russe, relativement moderne, c'est-à-dire que tout passe par une poste digitale, bien sûr, via des senseurs. Mmh. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer quelque chose à quelqu'un, c'est lu par un senseur, et puis finalement, c'est relativement court, disons 15 jours, 3 semaines, pour avoir une réponse. Mais là où il était arrivé, là où il a disparu, c'est-à-dire ce ICA de Kharp, eh bien, ce système n'existait pas. Et beaucoup aujourd'hui de ses amis qui ont reçu des lettres de lui et qui entretenaient une correspondance avec lui, on dit que donc depuis début janvier, il ne pouvait plus du tout parler avec eux. Et ils ont peur, certains disent, on va recevoir une lettre de lui, post-mortem, en fait, bientôt. Donc ça, tout ça est extrêmement fort et bouleversant.
Mm-hmm. Alain Boer, sur le système, en fait, je marquais un temps d'arrêt pendant le reportage, 266 000 personnes dans les goulags, en fait, ça s'appelle comme ça.
Il y en avait 600 000 il n'y a pas longtemps. Une partie fait régner la terreur dans les rues des grandes villes comme auxiliaires du pouvoir. Et l'autre partie est allée mourir en Ukraine. Parce qu'il y a eu un très très fort délestage de la population pénitentiaire. Comme d'ailleurs de la population des asiles psychiatriques aussi. Qui ont été recrutés par les milices ou l'armée. Et qui ont été envoyés à la boucherie. Il y a deux phénomènes. Un phénomène de forte augmentation de la criminalité locale en Russie, mais qui permet à ces gens d'avoir à peu près la même relation que les organisations criminelles Yakuza au Japon, qui sont à la fois des auxiliaires politiques et des agents criminels. Et les autres sont allés mourir. Et puis, effectivement, il y en a 266 000 dans l'ensemble des opérations pénitentiaires, un peu moins dans les colonies pénitentiaires sibériennes, mais il y a au moins, identifié par les organisations non gouvernementales russes et non russes, 450 prisonniers purement politiques qui ne sont là que pour des raisons qui n'ont aucune relation d'aucune sorte et certainement pas criminelle.
Donc il n'y a plus un semblant d'opposition avec vous, Sylvain Tronchet, pour cette dernière question, puis je vais vous libérer. Il n'y a plus d'opposants identifiés comme tels aujourd'hui, hormis ceux qui sont, comme le disait Alain Boyard, dans les goulags.
Oui, il y a Oleg Orlov qui est au tribunal actuellement.
Que vous avez rencontré.
Oui, j'ai rencontré il y a 3 jours, juste avant le début de son procès, qui sait que lui aussi peut potentiellement aller en prison. Mais il est impossible aujourd'hui, en fait, dans l'espace public russe, de se définir comme étant un opposant. La chose qui a, quand Alexei Navalny est rentré en Russie, je ne sais pas s'il pouvait imaginer comment évoluerait son pays et comment évoluerait le système répressif malgré tout, parce que depuis le début de la guerre en Ukraine, les choses se sont incroyablement accélérées et sont devenues incroyablement plus violentes. Enfin, et surtout, le cadre législatif a changé. Comme d'habitude en Russie, on applique les lois de façon rétroactive, c'est-à-dire que des choses que l'on faisait il y a 10 ans, qui étaient totalement autorisées, peuvent venir vous être reprochées aujourd'hui et vous pouvez aller en prison pour cela. Il y a des cas qui se voient et la dérive répressive du pouvoir actuellement. Oleg Orlov me disait on n'est pas à l'ampleur du système répressif que l'on connaissait sous Staline, mais on est déjà passé au-dessus de ce qu'il était sous Brejnev.
Merci beaucoup, Sylvain Tronchet, d'avoir été avec nous ce soir. En tout cas, le sort d'Alexei Navalny mobilise ce qu'on peut appeler la communauté internationale. Je ne sais pas si c'est encore un sens. En tout cas, une partie des Occidentaux qui se sont indignés. Et il y en a un qui a voulu prononcer son nom hier soir lors d'un concert à Las Vegas. C'est Bono. Regardez cet extrait. Apparently,
Putin... Vladimir Poutine n'a jamais prononcé son nom. Alors je pense que ce soir, nous qui croyons en la liberté, nous devons scander son nom. Pas seulement s'en souvenir, mais le dire. Alexei Navalny.
Alexei Navalny. Alexei Navalny. Alexei Navalny. Alexei Navalny.
Bon, on vous disait qu'il sera devenu un martyr.
Oui, je pense. Et j'aurais aimé que toute cette attention envers Alexei Navalny existe de son vivant et non pas après sa mort.
Peut-être apporteront-ils...
Et c'est classique. Hein,
peut-être apporteront-ils leur soutien à la femme d'Alexei Navalny.
On peut l'espérer, mais un soutien actif, c'est-à-dire une résistance au pouvoir russe. Et ça, j'en doute.
Paul Gogo.
Sachant qu'il y avait eu certainement aussi une incompréhension du pourquoi du retour d'Alexei Navalny. Et je pense que beaucoup de gens, même en Occident, se sont dit « Oui, mais il s'est mis dans la gueule de loup lui-même. » Et ce qui arrive n'est pas très étonnant. On ne peut plus rien faire. On n'a plus de prise sur le pouvoir russe. Et peut-être que ça a aussi joué sur le soutien qui lui a été apporté.
Peut-être aussi que la personnalité de Navalny et son parcours politique aussi a freiné certains, ce qui ne sera pas le cas de sa femme, pour le coup.
Oui, aussi.
Peut-être le rappeler.
Effectivement, il est quand même connu en Russie pour avoir participé à ce qu'on appelait la marche russe, qui réunissait ultranationalistes, néo-nazis. Alors, ça date d'il y a longtemps, ça date d'une période aussi où l'opposition russe était plus écoutée et existait peut-être un peu plus dans ces milieux-là. Et je ne suis pas capable, moi, de vous dire à quel point lui en a profité ou à quel point c'était ses idées personnelles.
Oui, en tout cas, il n'y aura peut-être pas ses réserves concernant sa femme.
Mais a priori, sa femme a une carrière plus neutre. Oui.
Mais Zelensky, le jour de l'annonce quand l'actualité se télescope, c'est absolument incroyable. Vendredi, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, était à Paris. Et c'est à ce moment-là qu'on a appris l'annonce de la mort. Et il a fait une déclaration, le président Volodymyr Zelensky. Et sa déclaration n'était pas extrêmement
chaleureuse
envers... Non, elle n'était pas extrêmement chaleureuse parce que justement, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit par Paul, les Ukrainiens trouvaient que Alexei Navalny n'avait pas dit grand-chose par exemple, à l'annexion de la Crimée.
Au contraire, en 2014, non seulement il ne dit pas grand-chose, et après il plaide pour un référendum d'autodétermination, c'est-à-dire aller justement toujours dans le sens du vent. Alexei Navalny, son père était ukrainien, pourtant, il est près de Tchernobyl, mais... je crois que aussi en Ukraine, il y a cette espèce de compétition aussi mémorielle. Les Ukrainiens aujourd'hui, de toute façon, les Ukrainiens ont beaucoup de mal aujourd'hui, même avec les Russes anti-Poutine.
Oui. Y compris avec les opposants.
Oui, y compris avec les opposants anti-Poutine. Je crois c'est que complexe. C'est allé tellement loin qu'aujourd'hui, les Ukrainiens vous disent non. Même ceux qui s'opposent, c'est trop tard, c'est allé trop loin. Ils avaient qu'à agir quand ils pouvaient agir.
Certains ont essayé de le faire. Ça n'a pas commencé
en 2022, cette guerre. Elle a commencé en 2014, elle a commencé encore avant. Et en 2007, quand Vladimir Poutine prononce son discours à la conférence de Munich, où il préfigure, on n'a pas fait attention à ce discours, mais où il préfigure la suite. L'année d'après, il envahit la Géorgie. Il prévient que le monde unipolaire, selon lui, dirigé par les Américains, c'est fini et que ça va revenir dans ce système où la Russie a un rôle à jouer.
En tout cas, justement, puisque nous parlons de l'Ukraine, hein, sur le terrain, l'armée ukrainienne a reculé et a concédé sa défaite à Avdiïvka. Le verrou de l'Est ukrainien est tombé aux mains des Russes. La supériorité en matériel des Russes compte sans doute pour beaucoup dans ce quotidien de la guerre. Certains mènent, vous allez le voir, un autre type de combat, celui pour la vérité. Regardez ce reportage de Mathieu Lignot, Barbara Steck et Stéphane Lopez sur ces enquêteurs qui cherchent minutieusement des preuves à envoyer aux tribunaux internationaux.
En Ukraine, certains soignent les blessés et d'autres dissèquent les armes qui frappent les hommes. Andriy Kulchinsky est un enquêteur un peu particulier. Depuis son bureau discret de Kiev, il analyse toutes les munitions tirées par les Russes.
Ici, devant vous, vous avez un drone Shahed. Là, les Russes ont écrit pour venger Yura. Et ils l'ont envoyé chez nous.
Du drone iranien, en passant par des missiles balistiques ou des obus de mortier. Le chef de ce laboratoire d'analyse militaire récupère toutes les munitions, des plus simples aux plus complexes. Dans sa collection macabre, ce missile hypersonique russe. Vladimir Poutine en personne le décrit comme invincible. Et pourtant...
C'est une ogive de Kinjal. L'appareil a été touché par le système antimissile Patriot. Sa pointe est faite avec un matériau pour percer des fortifications en profondeur et exploser à l'intérieur. C'est en titane du titane à 92%.
Corpus, titane.
Il faut avoir l'œil aiguisé pour percer les secrets de ces munitions. Mais pour cet expert, chaque pièce, chaque numéro de série est une information, même quand les dates de fabrication sont maquillées.
Vous voyez là le chiffre 8 à la place de l'année et 8 à la place du trimestre. Mais nous, en analysant les détails, on voit clairement que ça date de 2023. Ça indique qu'ils n'ont plus de stock, à peine sortis d'usine. Les missiles sont envoyés dans les aérodromes, attachés aux avions, puis les avions décollent et ils les tirent sur nous. Ensuite, ils atterrissent et ils attendent que les nouveaux missiles soient produits.
En temps de guerre, ces indices permettent d'analyser l'économie russe et son industrie de défense. Dans ce laboratoire, tout est bon pour trouver des renseignements.
C'est une antenne de navigation de satellite qu'ils ont accrochée avec un bout de scotch.
Oleksiy Kuzmenko décortique chaque composant, les passe au microscope. D'autres experts prennent ensuite le relais pour trouver des failles dans l'arsenal russe.
Nos spécialistes définissent après comment faire pour que nos systèmes de brouillage fonctionnent mieux quand il s'agit de brouiller les drones, par exemple, ou comment améliorer les systèmes de défense antimissiles.
Ces inspecteurs retracent aussi les origines des pièces utilisées pour fabriquer ces engins. Ici, une puce américaine. Là, chinoise.
Regardez, c'est un carburateur irlandais. Les Russes achètent ces moteurs chez les Chinois d'une manière officielle, à une entreprise civile. Ils achètent des moteurs et puis ils les installent dans les drones.
La Russie contourne les sanctions occidentales. Selon les autorités ukrainiennes, 95% des composants électroniques des armes russes viendraient de l'Occident.
Ça ne va jamais s'arrêter. Le business, c'est le business. Ils vont acheter chez les Chinois, chez les Nord-Coréens, les Iraniens.
Les analyses du laboratoire ukrainien sont aussi envoyées aux tribunaux internationaux. Ces armes russes peuvent être des preuves de crimes de guerre quand elles ont touché des civils.
Et vous commentiez ce reportage, hein, Claude Guibal, parce que vous étiez sur place il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Et vous parliez de l'effet de ces missiles qu'on a vus au début du reportage, les Kinjals.
Les Kinjals, j'étais effectivement à Kiev quand, en fin d'année, en début d'année, la Russie a tiré des Kinjals sur la capitale et qui ont été interceptés. Quand on voit les dégâts faits par un Kinjal intercepté, on imagine à peine les dégâts faits par un Kinjal qui impacte. C'est la terreur.
Et sur le terrain, vous avez ressenti, en tout cas peut-être les soldats vous ont-ils parlé, du manque de matériel. Joe Biden, cet après-midi, fait le lien entre ce recul de l'armée ukrainienne à Avdiivka. Je ne sais pas si je prononce bien.
Avdiivka.
Voilà, donc j'ai mal prononcé, c'est très clair. Entre ce recul et le fait que l'aide américaine soit bloquée au Congrès. Est-ce qu'il a raison ?
Mais clairement, moi j'étais effectivement à Avdiivka avec la 47e brigade il y a quelques semaines. Et ce que disaient les soldats, c'est qu'il leur manquait deux choses. Il leur manquait des hommes et des munitions.
Ça fait des mois qu'ils disent ça.
Oui, mais là on est dans l'hiver. On est concrètement dans ce temps où la Russie est passée à une phase très offensive. On a cette contre-offensive ukrainienne qui s'est fracassée, clairement, parce que en face, il y a une machine de guerre, mais qui est terrifiante, avec les Ukrainiens qui vous disent l'ennemi a progressé. D'abord, ils ont des armes, ils sont plus uniquement sur les vieux stocks soviétiques améliorés. Ils ont relancé leur chaîne de production il y a déjà très très longtemps. Donc ils ont par exemple beaucoup plus de drones. Il y a 6 mois, 8 mois, il n'y en avait pas autant. Là, aujourd'hui, effectivement, on en parlait avec Alain Bauer, les Russes produisent des drones iraniens, enfin sous contrôle iranien sur le territoire russe. Donc ils ont aujourd'hui des drones. Leurs drones leur permettent de, par exemple, dans une plaine comme le Donbass, de pouvoir identifier immédiatement, dès qu'il y a un petit regroupement, etc., ça tape dessus. En face, les soldats ukrainiens voient bien qu'il y a ça manque. Et ils vous disent, à Avdiivka, ils nous disaient, quand ils en tirent 10, on peut en tirer qu'un seul, quoi. Et ça, ajouté au fait que, voilà, les hommes tombent, c'est un puissant fou, en fait.
Exactement ce qu'a dit Volodymyr Zelensky samedi matin à la conférence de Munich, puisque lui aussi, il y était, même si, effectivement, tous ceux qui étaient à la conférence de Munich ont été un peu dépassés par l'annonce de la mort de Navalny, qui, médiatiquement parlant, a fait beaucoup plus de buzz. Mais qu'a dit Zelensky ? Il a dit, eh bien, au lieu de demander à l'Ukraine quand est-ce que ça va se terminer, demander à la Russie et à Vladimir Poutine pourquoi il réussit, lui, à continuer. Et il réussit, lui, à continuer parce qu'effectivement, il est en économie de guerre. Et parce que la guerre, il l'avait prévue, c'est lui qui a envahi. Et que de l'autre côté, eh bien, on n'avait rien de prévu.
Est-ce que l'accord de sécurité entre Kiev et Paris, Alain Bauer, peut changer quelque chose ? 3 milliards, jusqu'à 3 milliards de soutien. La future adhésion de l'Ukraine à l'Europe, à l'OTAN.
Service minimum, symbolique, un jour peut-être, on verra plus tard, mais ce n'est pas la question. La question, c'est que l'ensemble du front aujourd'hui est en mouvement, qu'il y a de nombreuses opérations russes un peu partout, qu'à défaut de pouvoir relancer leur propre chaîne de production, ils ont beaucoup d'obus coréens, des vieux stocks, mais qui font beaucoup de dégâts, et des chaînes de production de chaïds iraniens sous contrôle des Iraniens en direct, un peu comme les Houthis. Ça, on se demande toujours d'où viennent les missiles qui attaquent les navires. Ils viennent toujours du même endroit. Et donc là, il y a une capacité très importante des Russes à reprendre là où ils avaient perdu au départ quand les Ukrainiens avaient les barakhtyars turcs qui avaient fait beaucoup de dégâts, mais qui sont des gros drones. Là, ils ont des drones plus petits, plus dévastateurs en blessures et en morts. Par contre, on tire aujourd'hui beaucoup moins de munitions des deux côtés qu'avant. Les Russes sont très concentrés, mais le tir global de munitions a beaucoup baissé parce que même si les Américains débloquaient leurs crédits, les usines et la relance des chaînes de production américaines et des chaînes de production européennes, c'est le mois d'avril. Et donc, il y a une explication à cette accélération russe à Robotin, à Avdiivka et on a déjà vu à Bakhmout, mais tout le front est en mouvement. J'ai ressorti les cartes de ce matin qui montrent que l'intégralité du front est en mouvement parce que les Russes veulent prendre des positions dominantes, sortir de leur isolement parce qu'il n'y a pas assez d'hommes, c'est vrai, mais c'est un sujet qui est interne et qui a expliqué le changement du chef d'état-major ukrainien sujet de la question de la conscription. C'est un gros sujet. Et puis, il y a un énorme problème, c'est quand est-ce que les Européens vont enfin se décider à livrer tout ce qu'ils promettent, mais qu'ils n'arrivent
pas. C'est ça, parce que les 27 se sont accordés sur une aide de 50 milliards, mais ce sont des choses à venir. J'ai cette question, pardonnez-moi, d'Alexis, dans la Marne, qui nous est posée ce soir. Les Russes sont prêts à mourir dans les tranchées, Paul Gogo, dans les tranchées ukrainiennes. Combien sont prêts à mourir pour leur liberté ?
En tout cas, il y a cette tendance aujourd'hui en Russie d'expliquer aux Russes que oui, maintenant, il faut vous préparer à mourir pour la patrie. Enfin, c'est un discours, forcément, moi qui n'ai même pas de lien familial avec ce pays. Bon, ça fait plus de 7 ans que je vis en Russie, mais ça me surprend toujours parce que c'est super étrange pour moi de voir une mère dire bah, « mon fils, s'il doit aller mourir pour la patrie, il ira mourir pour la patrie ». Sachant qu'elle-même ne comprend pas forcément toujours ce qui est en train de se passer réellement en Ukraine. Et donc on arrive dans un système où il faut plus poser ces questions-là. C'est vraiment vous êtes pour ou contre. Ouais. Il y a les bons, les mauvais citoyens. C'est un peu l'angle de la campagne de Vladimir Poutine pour la présidentielle d'ailleurs, qui consiste à faire un peu le ménage et à sortir tous les gens qui font l'autruche leur tête du sol pour leur dire « Regardez, là c'est économie de guerre, c'est pays en guerre ». Vous participez ou vous êtes contre nous. Et donc, oui, il y a des
et gens. Et si vous êtes contre nous, vous en payerez le prix.
Exactement, exactement. Et Alexei Navalny le rappelle, effectivement.
Et nous revenons maintenant à vos questions.
Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.